Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Stripsismic. Ce soir, nous aurons le plaisir d'échanger avec Gwenaël Manac, dessinateur d'Un train d'enfer, édité aux éditions La Ville Brûle. Puis Nandi nous parlera d'Empire State, une histoire d'amour ou pas, des éditions Cambourakis. Et Camilla nous présentera Survilo, publié chez Actes Sud. Pour des raisons sanitaires, notre échange avec Gwenaël a dû se faire à distance, et alors que nous vivons dans un Paris qui se déconfine au rythme des messes, des mouvements sociaux et gens partant au travail, Gwenaël, toi, tu es à la ZAD Notre-Dame-des-Landes. Alors c'est comment la ZAD en ce moment ?
Bah du coup c'est assez calme, hein. C'est calme et confiné, comme partout en France, mais si ce n'est qu'on a plus de verdure peut-être, et qu'elle est un peu plus préservée qu'ailleurs.
Tellement de chance.
Ouais, j'avoue que je suis verni, ouais.
Et donc du coup... moi aussi j'ai vraiment adoré votre BD et je me demandais si tu pouvais nous dire quelques mots de ton parcours, comment t'étais devenu dessinateur, ça faisait longtemps que tu dessinais et comment t'en étais arrivé là.
Ben moi j'ai un parcours assez classique, j'ai fait les études de dessin, j'étais à l'Institut Saint-Luc en Belgique, à Liège, où j'ai fait des études d'illustration. Ou à la base, je me prédestinais pas forcément à la BD, je voulais plutôt faire des livres illustrés, des trucs comme ça.
D'accord.
Et puis, c'est à force de découvrir une autre forme de BD, plus alternative, que je me suis mis à en faire, en fait. Et moi, à la base, j'ai un travail perso qui n'a pas grand-chose à voir avec le reportage. J'ai sorti une BD en 2019 qui s'appelle La cendre et le trognon, qui est plutôt un roman graphique symbolique. Aux éditions 6 pieds sous terre, et ça c'était pour la promo, mais du coup ça a vraiment pas grand chose à voir avec la BD dont on parle, qui est un reportage en BD, et c'était un peu à la base, déjà avec mon frère on avait déjà fait une BD ensemble dans la revue 21, du coup c'était il y a 10 ans exactement, où j'étais encore étudiant, lui était tout jeune journaliste.
C'était sur les saisonniers, c'est ça?
C'est ça, ouais. C'était sur le travail saisonnier. On était allé faire les saisons des abricots dans la Drôme provençale et on avait croqué ça un petit peu, lui avec son stylo et ses questions de journaliste et moi avec mes crayons. Du coup, il y a quelque chose qui marche assez bien entre nous parce que déjà, on est frères, on se comprend. Il y a un langage commun, une compréhension qui marche assez bien et puis on a vraiment deux modes de voir les choses et qui sont très, très différents et très complémentaires. Du coup, à ce moment-là, déjà, ça marche. Je trouvais que c'était assez facile, en tout cas, de travailler là-dessus. Après, on a eu un autre projet ensemble qui n'a finalement pas vu le jour, un projet de reportage au Kosovo. Et puis finalement, voilà, entre les différents emplois du temps de chacun, on s'est retrouvés avec ce projet-là. Enfin, c'est lui qui est venu me voir, parce que lui, du coup, il a fait déjà plusieurs articles. Donc, il travaille pour Politis et il avait fait déjà plusieurs articles sur la question de la SNCF. Et du gros remaniement qui est en cours depuis quelques années, et de ses conséquences surtout, ses conséquences humaines, etc. Et il est venu me voir d'abord à la base, d'abord avec comme sujet principal le management, qui du coup devient de plus en plus violent et a vraiment des conséquences, notamment à la gare Saint-Lazare à Paris, où il y a un espèce de laboratoire de management, de néo-management, qui est à l'œuvre et où il y a eu des vagues de suicides à la SNCF au printemps 2019, pardon. Et donc on est parti de ça et en fait, en rencontrant nos éditeurs, du coup, La Ville Brûle, qui eux ont vu à la fois la quantité d'informations qu'avait mon frère et la taille du dossier et à la fois, comme tu disais, son aspect un peu symptomatique de tous les remembrements des services publics et qui ont lieu ailleurs aussi et qui ont lieu avant. Qui ont eu lieu à France Télécom, etc. On s'est dit que c'était quand même un sujet qui pouvait se prêter à plus que juste à une petite forme courte de type 21 ou revue dessinée ou des choses comme ça, et qu'il y avait de quoi faire un gros dossier, quoi. Du coup, voilà, c'est vraiment une combinaison entre mon frère et moi et nos deux univers, où moi je viens pas du tout du reportage à la base, même si j'en ai déjà fait, et lui vient pas du tout de la bande dessinée, il vient vraiment du journalisme brut. C'est un peu l'occasion qu'a créé le projet.
Justement, oui, ça me faisait penser à Lisa Mandel qui parlait de Sociorama et qui disait que c'était nécessaire que le dessinateur et le et l'auteur aient une bonne alchimie, et aussi que le dessinateur aille sur le terrain pour pouvoir ne pas faire que de l'illustration d'un reportage, quoi.
Mm-hmm.
Et je me disais que le fait que vous soyez frères, ça devait forcément faciliter en fait la fluidité qu'on peut lire, enfin dans le résultat final. Et je me demandais aussi si vous étiez allés sur le terrain ensemble, comment ça s'était fait en fait le passage de l'article à l'enquête en fait en BD.
Et ben au final, d'ailleurs si quand je joue sur les mots un peu, je me dis que c'est presque plus un documentaire qu'un reportage, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait du décryptage de dossiers, parce que mon frère avait accumulé beaucoup de matériel. Justement des choses qui nécessitaient beaucoup de travail de décryptage, de recompilage, de vérification des sources, etc. Donc il y a pas mal de, je dirais qu'il y a je sais pas, peut-être 2/3 du contenu qui sont en fait des papiers dans lesquels mon frère a dû se plonger. Là-dessus, moi j'avais effectivement presque un rôle d'illustrateur, au sens où il fallait que j'intègre des gros pavés de texte assez denses, j'essayais de comprendre un peu la moelle du sujet, et que je puisse tourner ça justement en BD, et que je puisse me servir de la bande dessinée pour clarifier, pour expliciter, ou juste pour rendre le truc digeste, quoi. Mais il y a eu une petite partie reportage. Il y a eu un reportage dans un grand fret de région parisienne qui est en friche, qui a été abandonné il y a quelques années. Enfin, semi-abandonné, mais quasi. Et on a fait un petit reportage aussi à Lille. Alors, dans le fret, moi, j'y étais pas en personne, mais du coup, j'ai demandé à mon frère de mitrailler de photos. Même si bon, j'aurais préféré y être, mais moi j'étais sur Grenoble à l'époque. Du coup, c'était assez compliqué de se rencarder pour faire des reportages ensemble. Mais on en a fait un à Lille avec les syndicalistes de Lille, et puis on a visité un peu la gare. Et ça, c'est aussi pour ça que le bouquin commence là-bas, parce que on y a trouvé pas mal de symptômes de tout ce qu'on voulait décrire. Voilà. Et pour ce qui est de la connivence, effectivement, je pense que le fait qu'on soit frère fait qu'on se connaît bien, et qu'on avait d'office une familiarité à bosser ensemble, c'est qu'à le dire. Mais en plus, là, sur ce sujet-là, on l'explique assez vite dans le bouquin. On s'en est pas forcément rendu compte, parce que mon frère avait déjà fait plein d'articles sur la SNCF, et moi, j'avais fait une BD qui s'avère mettre en scène beaucoup de trains. Et en fait, en bossant dessus, on s'est rendu compte que, respectivement, on avait tous les deux, à nos manières, un attachement assez fort pour l'univers du chemin de fer, et que ça venait pas de nulle part, parce qu'on avait un grand-père cheminot qui lui-même avait transmis la mystification, toute la charge émotionnelle du monde du chemin de fer, et que du coup, nous, on l'avait ingurgité étant petit. On était persuadé que notre grand-père était avec une grosse salopette en train de mettre du charbon dans la locomotive. Parce que c'est un grand-père qu'on n'a pas connu, mais du coup, on pensait que c'était, on avait ça en tête tous les deux, et on a découvert à 20 ans que c'était pas du tout le cas, qu'il était en fait ingénieur et qu'il était devenu assez vite prof, mais qu'il était quand même cheminot, parce que du coup, cheminot, ça va bien au-delà de ceux qui travaillent dans les locomotives.
Vous en parlez super bien, en fait. Dès le début, c'est vrai qu'on voit ce grand-père incroyable avec sa salopette. Et au fur et à mesure, il y a la construction. Et très marrant aussi, ce fameux grand-père qui à un moment va aller acheter du pain, je crois, et puis revient quelques heures plus tard. Enfin, il y a plein d'anecdotes qui sont vraiment chouettes. Donc oui, c'est pas du jeu. C'est vraiment votre vie, c'est vraiment vos origines. Là, tu le confirmes.
Oui, et en même temps, c'est une construction. C'est-à-dire que nous, déjà, ce grand-père, on l'a pas connu. Et puis nous, du coup, on n'avait plus de lien direct avec la SNCF, si ce n'est justement un héritage émotionnel. Mais et puis on n'est pas du tout parti de ça à la base quand on a décidé de travailler sur ce sujet. On est parti des articles de mon frère, et le hasard a fait qu'effectivement j'avais déjà travaillé en termes de dessin, j'avais déjà pris beaucoup de documentation pour mon livre précédent.
Je me permets justement sur l'article. Donc ça parle de Sphéris. Vous commencez en fait. Enfin, si je comprends bien, parce que vous en parlez à la fin du livre, il y a cette information sur Sphéris, ton frère va commencer à faire des articles vis-à-vis de ça. En fait, comment, j'entends très bien ce que tu dis, hein, sur le fait que vous vouliez quelque chose d'un gros format qui dépasse en fait la revue dessinée, mais quand même, c'est tout un travail d'articuler un article pour en faire une bande dessinée. Comment vous avez réussi à faire ça?
Bah, du coup, il y avait vraiment plusieurs articles. Sphéris, c'était, ça a fait partie des choses qui sont arrivées très vite ensuite. Le point de départ, c'était plutôt Saint-Lazare et Eric Bézou, la séquence qu'on avait appelée des affiches. Une séquence qui arrive assez vite dans le bouquin. Ça, c'était le point de départ, mais en fait, assez vite, bah, justement, Sphéris était pas loin. On s'est rendu compte du poids de ce que ça représentait. C'était vraiment quelque chose d'assez grave, que les témoins ou les interlocuteurs de mon frère étaient dans des états dramatiques et que c'était vraiment quelque chose d'important, qu'il y avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, comment on a fait? En fait, on n'avait pas de fil conducteur, enfin, si ce n'est que c'est la SNCF, mais on n'avait pas forcément de fil conducteur entre les différents sujets. Donc, Sphéris, qui est vraiment une histoire de comment la SNCF crée des sous-filiales et comment ces sous-filiales utilisent un management ultra-violent. Enfin, il y avait tout un truc. Et ce qu'on avait aussi à la gare Saint-Lazare, c'était aussi sur l'héritage cheminot. Et en fait, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on se mette en scène assez vite, ou en tout cas qu'il fallait qu'on mette en scène mon frère, parce que le principal fil conducteur qu'on avait, c'était son travail d'enquête, qui a été, lui, il a été butiné un peu partout, dans différents endroits, avec différents interlocuteurs, pour faire un espèce de tableau d'ensemble de ce qu'est la SNCF aujourd'hui, et de ce qu'elle a été, et de pourquoi ça crée des telles violences maintenant. Pour répondre à ta question de comment est-ce qu'on fait pour transformer un article comme ça, il y a beaucoup, beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire que lui, il commence par écrire un article en essayant d'avoir en tête le fait que ça va finir en bande dessinée. Donc, des fois, il fait un peu des dialogues en discours direct. D'ailleurs, il l'a fait de plus en plus au fur et à mesure qu'il commençait à choper le truc. Mais au début, c'était assez dense. Moi, j'ai vraiment eu aucun scrupule à tailler dans le gras de l'article, en transformant des choses en discours direct là j'étais vraiment dans mon rôle de fauteur de troubles avec assez peu de respect pour l'intégrité de l'article, c'est-à-dire que je transformais des passages entiers en discours direct, je changeais les lieux, les endroits en fonction de dans la continuité du découpage, etc. Et avec l'idée que justement lui allait pouvoir aussi y aller franchement pour remettre en question ce que j'avais fait. Et je pense peut-être là que le fait d'être frère et d'avoir assez peu de crainte de vexer l'autre, ça a permis de bien avancer comme ça. Mais du coup, moi, petit à petit, j'avais une plus grande compréhension du sujet, donc je pouvais tailler dans l'article sans trop déformer les propos. Et lui, en amont, à force de comprendre un peu mon écriture et le fonctionnement d'une bande dessinée, a pu décider ses écritures. Intégrer assez vite des mises en scène, intégrer des discours directs et même intégrer des blagues d'ailleurs, parce qu'on on avait assez vite conscience du côté très dense du sujet et spontanément on avait aussi envie de s'amuser à l'écriture, et du coup on a parsemé tout le bouquin de petites blagues pas forcément drôles, mais qui pour nous avaient surtout l'intérêt déjà de nous amuser et puis de mettre des respirations dans le sujet qui est assez dense.
Non, mais justement, c'est ça qui m'a vraiment impressionné, au-delà du fait qu'on sent que c'est une histoire de famille, vous mettez en scène aussi votre père qui se balade en chaussettes dans les trains parce que c'est chez lui un petit peu, enfin, comme ça, moi qui m'ont fait beaucoup rire, mais je trouvais qu'il y avait énormément de trouvailles esthétiques qui rendent le récit pas du tout rébarbatif. Par exemple, quand tu mets les usagers de la SNCF dans une gare autour d'un feu de bois, puis il y a une espèce de Bambi qui arrive, et puis des trains un peu animés comme ça. Je me rappelle aussi d'une femme d'une ONG bavaroise, d'une ONG allemande, pardon, qui est habillée en bavaroise. Enfin, en fait, on rigole pas mal, alors que le sujet est assez grave. Et je me demandais comment tu avais trouvé ces idées. Enfin, voilà, qui venait avec ces idées, est-ce que ça vient après la mise en récit, pendant?
Ça, c'est venu pendant. Ça s'est tricoté au fur et à mesure. On en a enlevé quelques-unes. Il y en a quelques-unes qu'on a décidé de garder au fil du temps. Moi, j'avais vraiment comme principale mission vraiment de rendre le truc digeste, parce que justement, je savais que j'allais pas pouvoir. Enfin, j'étais pas compétent du tout face à mon frère qui du coup travaille sur ce sujet et qui est journaliste économique depuis plusieurs années. J'étais pas du tout compétent pour avoir un avis sur le sujet, entre guillemets. C'est-à-dire que je m'étais vraiment mis presque un travail d'artisan. Mon travail, c'est de mettre en scène le propos, c'est de le rendre intelligible et de le rendre clair. Et en fait, je l'ai laissé le soin de me remettre à ma place quand je déforme trop le propos ou quand je suis trop malhonnête dans la mise en scène. Mais assez vite, on a assumé que c'était un peu tout l'intérêt de la BD reportage, c'est qu'on peut justement transformer les lieux, en faire des espaces surréalistes, que le lecteur il va pas forcément être dérouté parce qu'il a conscience qu'il est en train de lire une BD et que justement, si tout d'un coup l'accueil d'une gare se transforme en un petit lieu de feu de bois, ça va surtout être symbolique pour installer le récit dans une continuité plus que pour nous montrer qu'il en a vraiment fait un feu dans une gare. Donc j'avais vraiment tout cet outil-là formidable qu'est la bande dessinée pour déformer la réalité, l'enrichir, faire qu'on passe d'un lieu, d'un espace, d'un temps à l'autre, deux secondes, sans vraiment avoir de problème de lisibilité. Enfin, en tout cas, j'espère. Mais du coup, je pense aussi que peut-être que mon travail d'illustrateur avant ça, parce que ça fait 4-5 ans que je fais de la BD, mais avant j'étais surtout illustrateur, quand on est dans l'illustration, on est moins dans le récit, moins dans la narration, et plus dans... Enfin, on est dans une narration, mais qui va être juste sur une image, en fait. Et donc, on cherche à traduire... On utilise beaucoup des métaphores visuelles, et on cherche à traduire une réalité, un propos, ou une ambiance, ou une situation, avec juste une image. Et donc, on utilise beaucoup... Enfin, en tout cas, moi, dans mon travail, j'utilise beaucoup de métaphores, de transformations, d'allégories... Et je pense que c'est aussi beaucoup ça que j'ai utilisé. Enfin, je sais pas, je pense à un moment donné où on parle de la situation des cheminots, de comment ils sont traités, comment la SNCF combine le fait qu'ils aient une protection de leur emploi et en même temps que leur emploi est supprimé, donc il y a une espèce de... Là j'ai mis le train sur la mer qui fonce droit vers l'iceberg, donc c'était un peu arbitraire, j'aurais pu faire plein d'autres images qui fonctionnent, et ça pour le coup je pense que c'est une illustration. Après, la bande dessinée reprend le relais dans le sens où je continue à garder les personnages avec des gilets de sauvetage pour qu'on continue à identifier.
Tout au long du récit, puisqu'on revoit en fait un des personnages vers la fin, on dit ah bah oui, lui on s'en souvient, il était avec un gilet, évidemment, et ça fait des échos.
Oui, voilà. Du coup, après, voilà, j'assume la pirouette du départ qui est de mettre un train titanique sur l'océan, et après, du coup, ça vient juste enrichir l'imagerie du récit et la rendre un peu plus surréaliste. Et si on assume ce fonctionnement-là, je faisais le pari que le lecteur, au bout d'un moment, il a compris que de toute façon, tout était permis dans ce récit et que ça servirait surtout le propos.
J'avais pas compris. Non, je pense que si, c'était très clair. Mais justement, je me demandais si ta première BD, tu parlais d'une première BD plus symbolique, et tu penses que ça t'a permis de rendre le récit sur les trains un peu plus fantasmagorique?
Bah, en tout cas, ne venant justement pas du reportage et que mon travail perso est plutôt un travail. Avec des gros guillemets, d'artistique ou symbolique, justement, de fiction. Moi, j'assumais vraiment de venir avec ma casquette plus artistique et que ce à quoi j'allais pouvoir servir dans ce récit, c'est justement de décaler la lecture d'un article politique, quoi. Et d'une BD qui serait politique. J'étais tout à fait porté par le sujet et j'étais tout à fait intéressé par le contenu de cette BD, mais justement, j'ai essayé de garder ma casquette et d'utiliser les outils que j'avais mis au point plutôt sur ma BD d'avant. Du coup, à certains moments, quand l'écriture sort un peu du réel, d'ailleurs, c'est aussi des moments où c'est mon frère qui me suggérait de passer là-dessus, parce qu'assez vite, il a pu me conseiller sur des découpages et j'ai pu lui conseiller sur des formules parce qu'on faisait des échanges comme ça, mais à des moments il m'a dit bah là par exemple je verrais bien une illustration ou un truc très très visuel en une seule page, etc. Et où là je ressors moi les outils que je développe dans des trucs plus roman graphique, quelque chose que j'ai ramené de mon travail personnel. Ouais.
Serpentea el tren por las montañas, una emoción confusa serpentea mis entrañas. Qué pesadilla soñé esta noche, no puedo o no quiero recordar. Solo sé que la náusea agitaba mi garganta al despertar. Mamá. Con carga pesada y sin cantimplora. Y es que al fin ya soy uno solo, con las piedras, con la fauna y con la flora. Mamá. El fin de mis fines, algo terminó. Soy solo un recuerdo flotando, una gota. Lo que de mí queda es un simple vapor, un simple vapor, un simple vapor.
Serpentae el tren d'Axel Kreger. Nous sommes toujours sur Stripsismique avec Gwenaël Manac, dessinateur d'Un train d'enfer. Alors, on était en train de parler du travail que vous avez fait, ton frère et toi, sur cette bande dessinée. Penses-tu que cela lui a permis de changer sa manière d'écrire des articles, en fait ?
Alors, des articles... Je ne sais pas si tu parles de la BD ou de son travail à côté, mais je ne sais pas si ça a changé sa manière de continuer à écrire des articles dans son travail. En tout cas, ça assez vite, il a changé de sa manière d'écrire pour ce projet-là. Et assez vite, justement, il a assumé de pouvoir écrire en images, enfin, d'écrire des images, de me faire des didascalies de quelque chose qui n'était pas écrit et qui allait être visuel. Chose que des fois, je m'en saisissais, des fois non, mais justement, ça me permettait d'avoir des idées. Assez vite, on a travaillé comme ça, par suggestions successives, mais assez vite, il s'est adapté à ce mode.
C'est intéressant de voir le réel travail en fait qu'il y a eu et la place que l'un comme l'autre vous avez pu avoir en fait et t'as pu prendre dans l'écriture, enfin dans le dessin. C'est assez chouette. Vous avez mis combien de temps en fait pour faire cette BD ? Parce que je crois que ça termine. en juin ou en juillet 2020, et elle est publiée en septembre. C'est quand même un gros travail. Enfin,
oui, c'était un gros travail.
Un gros travail.
comme ton ami, c'était assez particulier parce que mon frère, d'ailleurs, je pense qu'il a s'est fait des cheveux blancs là-dessus, c'est que c'est le problème du journalisme et qui va pas avec la BD sur ce point-là, c'est au niveau des échéances, en fait, c'est-à-dire que c'est un sujet d'actualité qui, certes, est une actualité au long cours parce que la SNCF, on en parle tout le temps, mais ça reste un sujet d'actualité. On a commencé par vouloir faire une petite forme courte au mois d'avril 2019, justement parce qu'il y avait une vague de suicides et qu'on s'était dit qu'il fallait en parler maintenant, parce que c'était maintenant que ça se passait. Et quand on a changé un peu la forme et qu'on a commencé à vouloir faire un gros dossier, il y avait toujours la question de l'actualité. Par exemple, voilà, le coronavirus est arrivé en mars, le premier confinement est arrivé en mars. On avait déjà tout écrit, c'est-à-dire que il fallait remanier pas mal de choses au fur et à mesure que moi j'étais en train de dessiner, en sachant bien, et je leur avais bien dit, que au moment où j'avais dessiné la page, c'était fini, on pouvait pas la retoucher, quoi. Ou alors très très peu, et peut-être deux trois mots par-ci par-là. Mais du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai pu travailler assez tard, en fait. On a commencé à travailler dessus en septembre 2019, en se donnant comme échéance plus ou moins, en se donnant un peu de marge, mais en se disant qu'on aimerait bien l'avoir fini pour le mois de juin. Et moi j'ai pu travailler dessus assez tard parce que le texte était encore très, justement, très, c'était du défrichage, quoi. Donc il y avait plein de gros dossiers. Moi j'ai commencé par dessiner le reportage du Fred, justement, parce qu'il était, bah, c'était un reportage, donc il n'allait pas bouger. J'ai pu dessiner les interactions, les dialogues, les décors, les personnages qui se déplacent dans les décors. Ça c'était fixe. Et assez vite après, je me suis retrouvé sans matière parce que lui était encore en train de, est-ce que je peux dessiner telle ou telle séquence, est-ce que je peux dessiner la séquence sur le management à Saint-Lazare? Non, parce qu'il faut encore que j'ai le retour de ça. Il y a telle audience avec au prud'homme qui va tomber dans tant de semaines, donc on peut pas écrire là-dessus. Enfin, moi, je me suis retrouvé à bosser un peu, je sais pas, peut-être à mi-temps ou, en tout cas, pas à plein pot dessus de septembre jusqu'à janvier. Et par contre, à janvier, février, quand, dès qu'on a pu, moi, je voyais l'échéance de l'été arriver et il fallait absolument que je me mette à bosser. Donc, je leur ai donné une deadline en disant, voilà, si on veut pouvoir rendre le bouquin à telle date et que si, a priori, il va faire tant de pages, moi, je dois pouvoir dessiner la page 1, je crois que c'était mi-février. Et donc, j'ai commencé mi-février. Et là, pour le coup, je suis rentré dans un rythme assez effréné jusqu'au mois de juillet. Donc, il y a eu un an de travail. Le projet a eu un an. Et moi, j'ai fait six mois, vraiment gros plein temps dessus. Et donc, en fait, j'étais confiné avant tout le monde, moi. Parce que j'étais confiné dès le mois de février, chez moi, à mon bureau, à faire le dessin. Et quand le mois de mars est arrivé et que tout le monde a été confiné, je m'a pas changé grand-chose dans ma vie.
Ah, vous aussi, en fait.
Oui, c'est ça.
Tu proposais directement des storyboards ou tu faisais un croquis que tu présentais ou non, tu allais directement, en fait...
Oui, techniquement aussi, c'est de l'ancrage... Enfin, tu fais à la main ou tu fais à la tablette? C'est de l'ancrage...
Le dessin, c'est du crayon. C'est à peu de choses près la même technique que sur ma BD d'avant, si ce n'est que j'ai vraiment épuré le dessin, parce que là, j'avais pas le temps et que c'était... Et qu'aussi, je pense que le reportage se prête pas à un dessin trop lourd et trop contemplatif. Enfin, sauf à certains moments où justement je ressors des ombres fortes, des dégradés, des machins. Mais la plupart du temps, j'ai vraiment, vraiment épuré mon dessin pour qu'il soit plus rapide dans la lecture et qu'il vienne pas gêner le propos, qu'il soit plutôt au service du propos. Donc ça a été, ça aussi, ça m'a permis de gagner du temps. Mais donc, pour répondre à la question, c'est du crayon. Du crayon noir qui du coup passait à l'ordi et il ressemble assez à un ancrage, et après j'ai mis des couleurs, d'ailleurs je me suis fait aider un petit peu sur les couleurs pour gagner du temps, mais j'ai mis les couleurs à l'ordi, ouais.
Okay. Ouais.
Et la couverture, c'est de la gravure ou...
La couverture, c'est pareil, c'est du crayon avec...
D'accord, non, il y a...
Non, ça.
Ouais, le titre Un train d'enfer, je sais pas, je le trouve beau.
Et ben, c'est pas moi qui l'ai fait, ouais. Le titre.
Ah mince.
Bon, c'est un graphiste qui l'a fait pour nous. Les illustrateurs sont pas forcément des bons graphistes.
Chose à savoir.
La première couve que j'avais fait, c'était une espèce de fresque complètement dantesque qui regroupait un peu tous les sujets du bouquin. C'était une belle image, mais alors complètement lourdingue pour une affiche, quoi. Donc. Mais pour une couverture, en tout cas, du coup, voilà, j'ai accepté sans grand mal quand on m'a dit « Tu veux pas un truc plus simple ? On a un graphiste qui peut faire le boulot.
» Si l'on peut en proposer.
Ouais, ouais. Mais du coup, pour répondre à la première question sur les échanges, moi, j'ai commencé par faire un découpage, pour le coup, là, 100% à l'ordi. En répartissant, le principal boulot, en fait, c'était de répartir dans l'espace de la page les textes de mon frère, en changer les formules et les passer en discours direct, comme je disais, quand je voulais justement transformer ça en dialogue.
Ouais.
Proposer rapidement les illustrations, donc par exemple le train Titanic à tel endroit, je leur suggérais telle ou telle métaphore, telle ou telle illustration. Et en fait, ils ont été assez confiants là-dessus, ils m'ont pas mal. Enfin, il y a des moments bien sûr où ils disaient là, on pense pas que ça va marcher, etc.
Quand tu dis ils, c'est à la fois ton frère et l'éditeur, c'est ça ?
Ouais, ouais, les éditeurs de La Ville Brûle ont été pas mal actifs pour nous aider, notamment parce que c'était un travail rapide et à la fois il fallait être assez juste dans nos propos, donc ils nous ont donné un œil extérieur, disons.
Ok.
Typiquement, tu parlais de la blague de la biche. Moi, j'ai eu cette idée assez vite de mettre une biche qui représenterait tous les enjeux écologiques du reste de la BD. Et ils ont été là un peu en warning de me dire attention, on n'est pas sûr de comprendre. Du coup, ça m'a le fait de voir que ces blagues-là étaient pas forcément faciles à comprendre, m'ont mis un peu plus de vigilance sur comment les amener, etc.
Ok.
Ils nous ont bien aidés. Ouais. Donc j'ai fait le découpage de quasiment la totalité du récit en laissant vacantes les zones qui étaient encore en écriture. Dès que j'avais une zone dont le découpage était validé, bah je l'attaquais au dessin. Et du coup, j'ai fait un peu du Je sais pas, j'ai fait un espèce de jeu d'essayer d'être tout le temps au travail, en sachant qu'il y avait des zones sur lesquelles je pouvais pas bosser, donc je zigzaguais entre les zones où je pouvais faire du découpage, les zones où je pouvais dessiner. Dès que je pouvais plus dessiner, je repassais au découpage sur une autre zone.
Ouais, pas de manière linéaire, quoi, en fait.
Ouais, alors sur la fin, c'est redevenu linéaire, mais au début, hein, c'était vraiment un peu à casse-tête.
Ah, est-ce que tu sais comment la BD a été reçue? Quand je dis ça, c'était particulièrement dans le monde cheminot, voire même le monde militant.
Et ben justement, c'est presque le seul endroit où on sait, puisque on a pas pu faire tant de rencontres que ça à cause du confinement et du Covid. Donc on a été empêchés là-dessus, mais on a eu des retours des cheminots, en tout cas déjà des interlocuteurs, des gens qu'on met en scène dans notre BD. Donc ça, c'était rigolo d'ailleurs, parce qu'il y en a quelques-uns que moi j'avais pas rencontré, que j'avais juste vu en photo et que j'ai utilisé allègrement et sans vergogne. Comme des personnages, bah notamment un des personnages qui a du coup un gilet de sauvetage, qui est un syndicaliste qu'on retrouve dans la BD. Moi, je l'avais pas rencontré, donc j'ai fini par le rencontrer. Et c'était drôle de mettre une vraie personne sur un personnage.
Plutôt l'inverse. Et ça va, personne n'a mal pris comment t'as dessiné.
Non, ils l'ont pas trop mal pris. Il y en a un qui m'a dit que je lui avais enlevé quelques kilos, donc il était.
Très bien.
C'est bon ça.
Non, mais du coup, oui, déjà, leur retour à eux, nous, était super important, parce qu'on avait surtout envie de... On n'avait pas envie de trahir leurs propos. Et moi, j'étais un peu tiraillé, justement, par ce truc de... faire de la BD reportage, c'est assez malhonnête, au final, justement, comme je disais. Ben, j'utilise le mot malhonnête, c'est peut-être d'un provoque, mais en tout cas, je respecte pas l'unité de lieu, l'unité de temps non plus... Je fais parler des gens alors que c'est peut-être des fois ce qu'a voulu écrire mon frère. On leur fait dire des choses en essayant de respecter leur volonté, mais enfin du coup on modifie beaucoup de choses pour le bien de notre déroulé. Et du coup on a fait attention à essayer de toujours leur soumettre les dialogues, etc. Mais on avait peur de qu'ils se sentent trahis dans leurs propos ou pas représentés. Donc là déjà on est hyper contents parce qu'on a eux-mêmes étaient contents. Alors bien sûr, certains syndicalistes qui ont l'habitude de traiter ces sujets, qui ont l'habitude de les traiter de fond, qui sont militants de la cause, etc., des fois, ils ont eu l'impression qu'on simplifiait leurs propos, mais de toute façon, c'est ce qu'on a fait, parce qu'on pouvait pas faire... Sinon, on aurait fait 300 pages, et ça aurait été un peu indigeste.
Pour le rendre abordable et tout, ouais.
Voilà. Et ça, ils l'ont compris, ils l'ont pas mal pris, mais... Et ils se sont pas sentis trahis, ils ont senti la simplification, mais c'était pas une trahison non plus.
Je te dis, au début, j'avais quand même une crainte, je me disais, oulala, ça a l'air vraiment un truc de spécialiste et tout, surtout quand vous parlez des rapports, et c'est assez intéressant, mais en fait, vous l'abordez, enfin, vous simplifiez vraiment les choses, mais sans passer à côté de l'information. Donc, à la fin du livre, on est là, on a pris du plaisir, et en plus, on a appris plein de choses. Quand on n'est pas dedans, donc évidemment, quand on est dedans, ça doit être... différent, mais vraiment en étant juste extérieur, c'est heureusement des trucs comme ça existent en fait. Hein.
Là, je pense que c'était là que c'était utile que moi je sois complètement un profane et que je sois pas journaliste et que je et que je vienne, je réceptionne les articles de mon frère ou les écrits de mon frère avec mon œil de profane en me disant, mais moi, je veux, enfin, ce sujet m'intéresse, mais je veux en faire une BD lisible. Et du coup, j'ai vraiment taillé, enlevé beaucoup de choses. Mais bon, pour revenir sur le sujet, sur la question, je pense que les cheminots l'ont bien pris. Et après, il y a ce côté un peu, justement, où nous, on assumait la charge émotionnelle du fait d'être des petits-fils de cheminots. Il y a des enfants de cheminots qui ont lu la BD qui se sont dit qu'ils allaient l'offrir à leur famille, etc. Enfin, ça, on était contents du pari réussi, en tout cas, de représenter, de rendre un petit morceau de ce que peut être l'identité cheminote. En tout cas, on a eu des bons échos de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'on, nous, on se sent un peu dépossédés de la vie du livre, parce que justement, à cause du Covid et tout, déjà, quand on sort un livre, il fait sa vie tout seul, il nous prévient pas de comment les lecteurs l'ont pris. Enfin, il y a peu de lecteurs qui nous font des retours directement. Et il y a les dédicaces qui sont à un moment où on peut capter un peu la température, mais là, on a été privé de ça. Donc, on est un peu frustrés, mais en tout cas, ouais, les échos comme le tien, comme le vôtre, comme quoi vous avez passé d'un bon moment, c'est déjà très chouette, on est contents.
Oui, il y a un point qui m'a aussi super intéressé, c'était les partenariats publics-privés. Et je me demandais, parce que c'est un sujet en soi, et je me demandais si c'était un projet d'en faire une BD ou de développer ça.
Ah,
c'est aussi parce que c'est un peu le rêve secret de Pierre Paul d'avoir une BD là-dessus, donc je lance une bouteille à la mer.
À quelle séquence tu parles en particulier ?
Bah, sur la fin, en fait, vous travaillez, enfin, vous abordez à la fois les PVP, vous abordez les hauts fonctionnaires, enfin, c'est des sujets hyper intéressants, mais hyper denses, en fait. Là, vous abordez ça, vous effleurez ça, réellement, ça pourrait être une BD en soi.
Oui.
Voilà.
Là, ce qu'on s'est vite rendu compte, c'est qu'effectivement, on pouvait faire une BD avec chaque dossier qu'il avait. D'ailleurs, nous, on avait commencé par le management et les conséquences humaines du new management. Parce que, enfin, voilà, c'était le point de départ. Et en fait, je pense qu'on aurait vraiment pu en faire une BD juste avec ça. Pour l'instant, on n'a pas prévu d'en faire un tome 2, de faire un sequel de tout ça. Déjà parce que moi, du coup, je suis parti sur un autre projet. Et puis parce que mon frère aussi est reparti sur son travail. Donc oui, non, on n'a pas prévu forcément de ça. Mais effectivement, ça a été... parmi les choses assez difficiles, de devoir renoncer à la profondeur de certains sujets à aborder.
Bon, ça ouvre plein de pistes, en tout cas, c'est vraiment génial. Et est-ce que vous avez des... Enfin, toi et ton frère, vous avez des projets en cours ou d'autres idées? Ça vient de sortir, donc peut-être pas encore, mais...
Bah là, pour l'instant, on s'est donné un peu une pause. Mon frère, lui, comme je disais, il s'est fait des cheveux blancs à être... Il était à la fois, il continuait son boulot de journaliste et à la fois, il était le soir à travailler sur le projet.
Ouais.
Donc, il voulait un peu se reposer. Moi, j'avais un projet que j'avais mis en suspens, un projet de bouquin beaucoup plus personnel, que j'avais mis en suspens pour faire celui-là, qui du coup était marqué par l'actualité. Et donc là, je l'ai repris en septembre. Je l'ai sorti des tiroirs pour me rebosser dessus. Donc oui, j'ai un projet, moi, qui va du coup plus être...
Tu peux nous en parler un peu ?
C'est encore très secret.
Ok. Très
bien. C'est la meilleure projet. Moi, j'adore.
Non, ce sera plutôt dans la veine de mon premier bouquin. Donc, plutôt un roman graphique, une fiction, un truc symbolique. J'ai toujours envie de parler des humains, donc je parlerai des humains, mais... Mais là, au moment où je vous parle, je suis à la page 6 du découpage, et donc j'en ai même pas parlé à des éditeurs, même si ça ne saurait tarder. Enfin, voilà, on en est là. Je pense que c'est encore trop tôt. J'assume pas.
Bon, on a hâte de lire ça, en tout cas.
Chouette.
Je termine vite fait. Enfin, c'est vrai que la dernière page, tu traites un peu du coronavirus, même juste la dernière page, en fait, où tu parles de l'urgence climatique, sociale. Enfin, c'est un texte hyper engagé où on voit un train en loin partir. Génial. J'ai terminé ça, mais j'avais, j'ai une sorte de satisfaction et une compréhension du service public, des biens communs et une envie de les défendre. Et c'est tellement actuel au vu de ce qui se passe que vraiment. Le fait de sortir ce bouquin, je trouve qu'au niveau de la date, c'est bien. Le fait de sortir ce bouquin en septembre 2020, ça fait un an en fait qu'il y a eu d'énormes manifs où la SNCF, où les cheminots, en fait, c'est assez récurrent, mais les cheminots vraiment ont apporté ont apporté une mobilisation, ont apporté en fait une réflexion qui a touché à peu près tout le monde au niveau de la réforme des retraites, de voir en fait que ça continue et que ce qui est en train de se passer au niveau de la SNCF, ça va certainement attaquer l'ensemble des services publics. Enfin, vraiment, cette dernière phrase, ce dernier texte est vraiment génial, donne envie de continuer de vous lire, aussi bien ton frère que toi, et vraiment, je vous remercie pour ce travail que vous avez fait. Vraiment.
Ben avec plaisir. C'est très, très, je suis très, on est très content, je pense, que si ça peut avoir cette portée-là, c'est super. Ça donnera envie d'en faire d'autres.
Certainement reconnu la musique de Tintin et vos souvenirs sont encore frais. Alors vous voyez juste avec ce son le train avançant à toute vitesse et Milou qu'il faut récupérer. Encore une fois, merci Gwenaël. Je rappelle que tu as travaillé avec ton frère Erwan sur cette bande dessinée Un train d'enfer. Ça a été publié aux éditions La Ville Brûle en septembre 2020 et toute l'équipe de Strip Sismique va suivre avec intérêt ton travail et cette nouvelle BD. Alors nous passons au deuxième mouvement de l'émission avec Camilla et Nandi. Vous allez donc nous présenter vos chroniques. Nandi, tu as lu Empire State, une histoire d'amour ou pas, donc des éditions Kambourakis. Et Camilla, tu as chroniqué Survilo, publié chez Actes Sud. Nandi, je te propose de commencer.
Coucou à toutes et à tous. Alors, j'ai bien lu Empire State, une histoire d'amour ou pas, par Jason Chiga, traduit par Géraldine Charognard et paru le 14 octobre de l'année 2020 aux éditions Kambourakis. Alors, Jason Chiga, tout le monde ne le connaît pas, qui est-il ? Alors, Jason Chiga, c'est un type qui a la fâcheuse et sympa tendance de faire des BD en art limite. Je m'explique, ses intrigues sont drôles, décalées et labyrinthiques. Ce BDiste américain propose des formats tarabiscotés et conceptuels, et en raison de leur étrangeté de format, aux exemplaires parfois rares. Dans ses œuvres règne un fonctionnement à énigmes et une vraie recherche en termes de techniques narratives. Mais son dessin, lui, paraît simple, mais dès qu'on tourne une page, on s'étonne franchement de se retrouver là. Donc, nous nous étonnons pas cette fois que Jason Chiga ait été nommé spécialiste du maze, soit du labyrinthe. Des exemples d'œuvres dans cette veine, et pour lesquelles par ailleurs il a été souvent primé depuis 1999, c'est Book Hunter, Vanille ou chocolat, un livre, 3856 histoires possibles, et Demon, en 4 volumes, voire Flip, un livre allongé, en format à l'italienne, où on se retrouve bloqué dans une espèce de Twilight Zone, quatrième dimension naïve et à la fois très réaliste. Ces intrigues avancent par dessins donc naïfs et glaçants, par raisonnement scientifique, mélancolique, animé par une autodérision certaine. Mais cette fois, dans Empire State, une histoire d'amour ou pas, c'est une geste étrange qui dissonne avec ses œuvres précédentes. Étrange pourquoi ? Car sentimentale. Empire State, une histoire d'amour ou pas, est meublée d'autodérision, de références pop et de sentimentalité, d'inquiétude vis-à-vis du monde. Et dans ce berzingue, une folie absolument nécessaire, celle d'aller vers l'autre avec tout le sentiment possible. Alors, Empire State, une histoire d'amour ou pas, Kazako. On débute avec deux personnages, Jimmy et Sarah, qu'on a du mal à situer en âge, quoiqu'ils paraissent jeunes, et pour cause. L'adolescence attardée et le thème des annonces amoureuses loufoques sur un Le Bon Coin sont des pampis qui habitent tous les âges. Et Sarah, l'amie de Jimmy, se pose des questions dans ce contexte du type « couche-t-on pour ne pas passer pour superficiel, ne pas traiter les hommes comme le feraient les autres femmes ?» Bon, laissons tout cela en suspens. Jimmy, lui, notre personnage principal, est un type vivant comme un ado et croyant aux possibilités de s'en sortir en créant des plateformes internet, d'autres que des sites de vente de meubles et de rencontres amoureuses. Car Jimmy, à Auckland, il s'ennuie dans sa bibliothèque. Alors, c'est l'eldorado d'internet, pivot social, qu'il course. Après la rue vers l'or, celle du net, donc Jimmy et sa meilleure amie, de vouloir s'extraire de leur ville et se faire une vie. Il y a de la pérégrination dans l'air, des rencontres où les taulards sont plus cultivés que les rats de Bibli et où le sentiment de province est plus étendu qu'à Manhattan. Enfin, peut-être. Car paradoxalement, il y a des lieux là-bas, comme l'Empire State Building, qui sont hantés de films d'amour. Quoi qu'il en soit, une geste d'amour débute avec, en fond, la relation à distance, comme terreau saisi pour s'aimer. Et que faire de son sentiment à distance quand on est apprenti web designer? Envoyer une lettre? Oui, pardi. Mais une lettre d'amour peut-elle rencontrer la réalité telle qu'on la connaît aujourd'hui? Peut-on l'accepter hors du rire? Est-ce naïf, bête, enfin? Une lettre d'amour, c'est comme un couac, le premier et souvent le dernier, un hack de la réalité qui tambourine des flux, des nécessités et des pseudo-besoins. Les humeurs de Jimmy sont là, elles sont portées par cette intention. Dans cette BD, le dessin de Jason Shiga ne donne pas forcément l'intuition du propos. Aussi, le dessin et le ton m'ont filé une sensation à la South Park. Et du coup, on veut pas vraiment croire à la finesse sentimentale, mais elle rôde. Et Empire State devient une œuvre qui dissemble complètement avec ce que Jason Shiga a pu faire jusque-là, même si on sent sa patte. Ça fait plaisir que Shiga se manifeste comme toujours décalé et toujours autrement. Donc vous pourrez lire Empire State, une histoire d'amour ou pas, de Jason Shiga. Et quand je vous dis aussi de vous le procurer, potentiellement, bah c'est pas sur Amazon. Et je vous renvoie aussi à ses autres œuvres, cérébralement provocantes, et dont on peut consulter des extraits sur Internet. Et foncez acheter un exemplaire. Bonne lecture.
Cérébralement provocante, j'adore. Merci Nandi. Et toi Camilla, alors qu'as-tu pensé de Survilo?
Survilo, c'est l'histoire d'une femme. L'histoire d'une famille, la famille de la grand-mère de l'autrice, qui raconte sa vie dans la Russie communiste. Au début, c'est l'enfance, c'est le bonheur. Mais les drames ne se font pas attendre. En 1937, le père de la protagoniste est arrêté pour des raisons politiques. Cette arrestation comportera une chute brutale pour toute la famille. Être la fille d'un ennemi du peuple n'est pas rien. Cette arrestation est d'autant plus dramatique que personne de la famille comprend ses raisons. Et surtout, personne n'a de nouvelles du prisonnier. Commence comme ça une longue agonie, faite des lettres d'un côté et du silence du côté de l'administration soviétique. Ce silence durera 20 ans. Comme souvent, les silences provoquent des dégâts. Et c'est aussi le cas pour la famille Survilo qui tombe en disgrâce. Chassée de Leningrad, se retrouve à vivre dans une situation très précaire à la campagne, dans un village isolé, au milieu de nulle part. La misère ne suffit pas. La guerre vient prendre les relais, et c'est ici que la BD devient très sombre. Avec un compte-rendu détaillé de certains moments dramatiques du siège de Leningrad, il y a des scènes dures, qui sont très bien illustrées par l'autrice, avec un dessin en noir et blanc à l'encre. Dans sa façon de parler de la guerre, de façon précise, concrète, il y a quelque chose qui rappelle les récits sur la guerre en Yougoslavie, de Joy Sacco. L'encre noire, la quantité d'encre utilisée et les traits du pinceau deviennent l'instrument de la mémoire comme un organe sensible qui permet de retransmettre les émotions à travers un trait qui devient de plus en plus confus selon le niveau des pathos. Les dessins de Olga Lavrentieva représentent de façon très juste les paysages russes. C'est assez intéressant de voir comme à travers le noir, elle arrive à dessiner la neige. Son trait rappelle celui d'Edmond Baudouin par moment. Les rapports au temps est un des grands thèmes de cette BD. Comme disait Heidegger, le temps ne passe pas. Loin d'être voué à s'éloigner, se diluer, s'effacer dans la nuit, le passé se relève être paradoxalement riche d'avenir. Dans cette BD, nous passons souvent du présent au passé et vice-versa. Le temps est ici un matériau. Malgré cette plasticité, les récits restent très clairs. La grammaire répète souvent une phrase « Je vis pour eux » en faisant référence à ses chars morts. Cette citation de la grammaire évoque pour moi la poésie de l'italien Ugo Foscolo, Les Sépulcres. Non vive i fossi anche sottoterra quando gli starà muta l'armonia del giorno, se può destarla con soavi cure nella mente dei suoi? Ne vit-il pas encore de les sols, alors que l'armonie du jour est pour lui étonte, il peut encore se rappeler aux siennes avec douceur? Celeste è questa corrispondenza d'amorosi sensi. Celeste dote negli umani e spesso per lei si vive con l'amico istinto e l'istinto con noi. Celeste è cette correspondance du sens amoureux. Ce don du ciel se trouve in chaque humain et souvent grâce à lui on vit avec un ami disparu et les disparus avec nous. Survilo, c'est donc un peu une prolongation du geste de la mémoire, de la grammaire, faite par la petite fille, qui permet à cette mémoire d'émerger et de se fixer. Cette BD redonne vie à tous ses morts, l'espace de quelques pages. Pour moi, c'est un peu une œuvre de résurrection. Pour conclure, quelques mots sur la jeune autrice, la russe Olga Lavrentieva. Olga est membre de l'Union des artistes de Saint-Pétersbourg et semble préférer les histoires basées sur des événements réels, souvent sur des thèmes sociaux ou politiques. Par exemple, elle a consacré son premier album au procès des militants proches de Limonov. Elle a fait un reportage graphique à partir de la salle d'audience et réalisé environ 110 illustrations. En 2014, elle était imprimée en édition limitée et malheureusement, pour le moment, cet album n'est pas encore édité en français. N'hésitez pas à aller regarder son site, vous trouverez pas mal d'informations et des beaux dessins.
Ok, super. Merci Camilla. Notre émission touche à sa fin. Je remercie toute l'équipe d'avoir travaillé sur cette émission. Je remercie Gwenaëlle de nous avoir accordé du temps pour parler d'Un train d'enfer et les éditions Cambourakis et Actes Sud de nous avoir fourni les bandes dessinées pour permettre nos chroniques. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. On se retrouve le mois prochain et nous aurons le plaisir d'avoir un entretien avec Jérôme Dubois. Bonne soirée et bon déconfinement.
Ha ha ha.